Radio Kapi.
Le journal grâce à Mzati Masanzi. À la une de l'actualité, une lueur d'espoir dans le processus de pacification de la province de l'Ituri. Plus de 40 armes et munitions viennent d'être remises volontairement aux forces armées de la République démocratique du Congo par des éléments du groupe armé autodéfense. Restez avec nous pour en savoir plus. Le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la réussite de la rentrée scolaire 2025-2026 fixée au 1er septembre. Félix Tshisekedi l'a dit au cours du Conseil des ministres du vendredi dernier. Clôture ce dimanche de la Semaine mondiale d'allaitement maternel. C'est une semaine de conscientisation des parents sur l'allaitement exclusif des 0 à 6 mois. Que retenir de cette semaine? Nous en parlons avec le médecin directeur de la clinique Dieu est grand de la ville de Béni, le docteur Baba Mutuza, et l'invité de la rédaction. Avant d'aller plus loin, sachez que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Madiamvita, est arrivé à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, en début d'après-midi de ce dimanche. C'est dans le cadre de ses missions d'itinérance dans toutes les régions militaires. Selon sa cellule de communication, son agenda prévoit la tenue d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie, une causerie morale avec les militaires de la 33e région militaire, la visite de quelques infrastructures militaires, une descente dans les camps militaires et entretien avec les dépendants des militaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Ituri, 47 armes et leurs munitions ont été remises volontairement aux forces armées de la RDC et FARDC par des éléments du groupe armé autodéfense. Deux cérémonies ont marqué cet événement. D'abord jeudi à Djaïlo et samedi à Mabanga, dans la chefferie des Mambisa, territoire des Djougou. Un geste qui traduit les résultats des sensibilisations menées ces derniers mois par les acteurs politiques, sociaux et coutumiers. N'est-ce pas, Jean-Claude Lokidile?
Au total, 45 fusils AK-47 et 2 mitrailleuses PKM, toutes munies de leurs chargeurs. Ces armes de guerre ont été déposées par les miliciens eux-mêmes, décidés à quitter le maquis. Flori Kitoko, le responsable provincial du programme PDDCS, l'a confirmé ce dimanche. La cérémonie officielle, organisée par les leaders de ce groupe armé, a réuni autorités militaires, civiles et coutumières. Le président de 21 communautés de l'Ituri, Michel Meta, salue ce geste et félicite l'armée pour cette pression militaire exercée sur les groupes armés.
Quand il y a une arme dans la population, dans la communauté, c'est déjà un danger. Surtout le fait que ces armes sont détenues d'une manière illégale. Vous avez vu les groupes armés d'autodéfense remettre les armes, c'est parce qu'il y a une pression militaire sur eux. Et il ne faudrait pas qu'il y ait aussi deux poids, deux mesures. On est en train de traquer l'autodéfense. Et de l'autre côté, la Codeco qui vient encore de tuer la population dans la chefferie de Dokebu, qui montre qu'il y a déjà un autre pesateur qui risque encore de retourner les efforts de la paix à zéro. Il faudra que les opérations continuent, pas seulement pour l'autodéfense, ni pour la CRP, mais pour tous les groupes armés.
Pour les habitants de l'Ituri, fatigués des années de violence, il est temps que cette province retrouve la paix. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Nous restons à Ituri, où des centaines de jeunes ont résolu de ne plus poser des actes contre la patrie, notamment adhérer aux groupes armés ou entretenir la haine tribale, souvent à la base des violences communautaires. C'était à l'issue d'une conférence débat animée par le commandant du secteur opérationnel des FARDC à Bounia. C'est dans le cadre d'une vaste campagne lancée depuis mercredi par le Parlement des jeunes de l'Ituri sur le patriotisme dans le contexte actuel et le rôle de l'armée dans la pacification. Retrouvons à nouveau Jean-Claude Loki.
Cette conférence était un cadre d'échange entre la jeunesse et l'armée sur le patriotisme et le rôle de nos forces. Le général Bruno Mandefou, commandant des FARDC en Ituri, a exposé pendant plus de 4 heures, suivi de débats pour répondre aux préoccupations des participants. De centaines de jeunes se sont dit conscients de leurs responsabilités dans la situation sécuritaire en Ituri. Ils se sont engagés à ne plus commettre certains actes qui compromettent la paix en Ituri, ne jamais intégrer les groupes armés ou soutenir les milices à tendance communautaire, ne plus diffuser de messages de haine qui entretiennent des violences communautaires. Par ailleurs, ils ont résolu de sensibiliser des jeunes égarés à déposer les armes. D'autres jeunes se sont engagés à s'enrôler dans l'armée pour témoigner de leur patriotisme en vue de défendre la patrie. Cependant, cette jeunesse a recommandé aux autorités militaires d'imposer la discipline au sein de l'armée pour mettre fin à certains actes qui brisent la relation civilo-militaire, pourtant nécessaire pour vaincre les ennemis de la paix. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Kapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, plusieurs cas de criminalité ont été enregistrés cette fin de semaine dans plusieurs quartiers de la ville de Goma et dans une partie du territoire des Nyiragongo. On dénombre de meurtres, blessures graves et des cas de vol d'objets de valeur dans des maisons de particuliers. Le point avec Jude Mister Bilanda.
La nuit de ce dimanche, des individus munis d'armes à feu ont rôdé dans les quartiers Mugunga, commune de Karisimbi à Goma. Plusieurs ménages ont été inquiétés en se faisant ravir des objets de valeur. Le pire est arrivé sur l'avenue Maendeleo. Les bandits ne se sont pas contentés de juste amener les biens. Ils ont ouvert le feu, tuant sur les coups les propriétaires de la maison. Selon les témoins, une semaine avant, la même famille avait déjà été victime d'attaques d'hommes armés avec perte de biens. Un autre chef de famille, lui, en a réchappé de justesse dans la même nuit. Le bal tiré en sa direction l'ont grièvement blessé. Il a été dépêché à l'hôpital en mauvais état. L'incident s'est déroulé au quartier Mabanganor, commune de Karisimbi. Au même moment, plusieurs autres maisons du même quartier ont été fouillés des fonds en comble par des voleurs armés qui n'ont rien laissé derrière eux. Des alertes sont également venues du quartier Kieshiro dans la commune de Goma. Des bandits ont terrorisé les habitants en s'introduisant par effraction dans les maisons à la recherche d'argent, de téléphones portables et autres objets importants. Dans les territoires de Nyiragongo, c'est un conducteur de taxi-moto qui s'est fait arracher l'engin et toute la recette de son labeur journalier. Il était que 19h dans la localité de Turunga. Ici même ont été retrouvés la veille les corps de 4 personnes visiblement tuées par balles, renseignent les sources.
Éducation à présent. Vous le savez, la rentrée scolaire 2025-2026 est fixée au 1er septembre. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demande à cet effet au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de cette rentrée des classes. Il a donné cette instruction au cours du Conseil des ministres du vendredi 22 août. Il a par la même occasion insisté sur la nécessité d'évaluer les engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, mais aussi de poursuivre des échanges francs et responsables entre l'exécutif et les représentants syndicaux. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Selon le porte-parole du gouvernement, le président de la République tient à la stabilité sociale qui constitue l'un des piliers essentiels de la paix et du développement durable de notre pays. C'est pourquoi il estime qu'il incombe au gouvernement de maintenir un climat de confiance permanent avec des partenaires sociaux et d'apporter des réponses concrètes, crédibles et durables aux préoccupations exprimées par des différentes couches de la population active. Le président a rappelé que le gouvernement avait engagé dans un passé récent des échanges francs et responsables avec des représentants syndicaux des enseignants, des médecins et d'autres catégories socio-professionnelles. Ces assises, rappelle-t-il, avaient permis de dégager un certain consensus et de sceller les engagements auxquels l'exécutif national avait souscrit. Elles avaient ouvert la voie à une accalmie sociale, favorisant une compréhension mutuelle et la poursuite sereine de l'action de l'État. À cet effet, la première ministre a été chargée de réunir l'ensemble des membres du gouvernement directement concernés afin d'évaluer les niveaux des mises en œuvre, des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, d'élaborer une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégrale de ces engagements.
Merci à vous. Blaise Makassi Nandes. On enchaîne avec la santé. Dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le vice-gouverneur a lancé vendredi la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois. Selon la conseillère du gouverneur en matière de santé et éducation, le nombre d'enfants attendus pour cette campagne ne sera connu qu'après les dénombrements et les prémarquages des ménages. Plusieurs entités de la province ayant été secouées par l'insécurité, causant ainsi le déplacement de plusieurs ménages. Prisca Kamala Luanda explique les étapes de cette campagne de vaccination au micro de Marc et Marofimbo.
En province du Nord Kivu, la campagne prévoit deux étapes. La première réservée à la communication intense, les dénombrements et les prémarquages des ménages qui ira du 23 au 26 août 2025 et celle de la vaccination prévue du 28 au 30 août 2025. Durant ces 3 jours, Tous les enfants de 0 à 59 mois recevront 2 gouttes de vaccin pour les protéger contre cette maladie. Les équipes des vaccinateurs passeront de porte à porte pour administrer les vaccins à tous ces enfants. Chers parents et gardiens d'enfants, vous êtes donc invités à apprêter vos enfants et à les présenter aux vaccinateurs pour recevoir gratuitement les vaccins, même s'ils sont malades ou ont déjà été vaccinés pendant la routine. Agissons ensemble pour protéger nos enfants contre la poliomyélite.
Direction la Tchopo, les taximens moto, membres de la dynamique des taximens indépendants de la ville de Kisangani, bénéficient des gilets, signes distinctifs dans l'exercice de leur métier sur la voie publique. Cette dotation d'un député national a eu lieu hier à l'esplanade de la mairie de Kisangani en présence du maire de la ville d'Eli Likunde. Un reportage signé Jacques Mkongole.
Plus de 200 gilets ont été distribués aux taximens enregistrés lors de l'opération y afférente. Celle-ci a été organisée bien avant par la dynamique des taximens indépendants de la ville. En offrant ces gilets aux taximens, le député national Patrick Matata aimerait que ce dernier puisse contribuer à la sécurité de la ville en dénonçant les inciviques. Ces gens-là sont en train de créer l'insécurité dans notre ville. C'est pourquoi vous avez suivi le message des autorités de la ville en se faisant identifier pour dénoncer les ennemis de la paix. Cette dotation est une petite contribution pour renforcer la sécurité de la ville. Pour les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges envers leurs bienfaiteurs. Ils promettent de se conformer à la volonté des autorités, comme le déclare leur coordonnateur, Bomiko Wameta. Je remercie notre député national pour ses dons en faveur de notre coordination. Nous serons maintenant visibles sur le terrain. Tout ennemi de la paix dans notre ville doit être dénoncé. Le port de gilet est une des injonctions du commandant provincial de la police nationale congolaise à tout taximen moto en plein exercice de son métier. Il en est de même du port de casque et de ketch ou souliers. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci de nous écouter au quartier Luama, à Kindu, dans le Maniema, où les chercheurs et enquêteurs de l'Institut supérieur de développement rural, ISDER Kindu, et ceux de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, ICAV Maniema, sont formés depuis vendredi sur la connaissance endogène des épices indigènes et sauvages contribuant à la souveraineté alimentaire. Formation donnée par l'organisation Congo Bassin Conservation Society. Josué Aruna, directeur pays de cette organisation et membre de la société civile environnementale, nous parle de l'importance de cette formation au micro de Florence Kizalunga.
En fait, ces enquêteurs sont outillés de la manière dont ils vont collecter les informations d'usage de ces épices traditionnelles et sauvages qui sont collectées par les communautés locales et les peuples autochtones qui vivent autour du paysage de la Lomami. Et cela leur permettra de connaître les modes d'usage, quelles finalités, est-ce que ce sont des finalités économiques ou bien les finalités seulement liées à la souveraineté alimentaire. Et comment ces communautés ont contribué à préserver ces épices dans les paysages forestiers et comment ils pourront également continuer à contribuer à la préservation de ces forêts. Ce que nous visions, vous savez, la province du Maniema, c'est une province forestière avec des paysages très remarquables dans le cadre de la conservation. Et aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ces communautés, notamment les peuples autochtones et les communautés locales, puissent valoriser ces services rendus par la nature et que demain, après des analyses, nous puissions les accompagner dans le cadre de la chaîne de valeur de ces épices traditionnelles pour que demain qu'ils deviennent stables dans leur ménage.
Parlons culture dans ce journal. Nour, lumière ou éclairage en Swahili, c'est le titre du film projeté ce samedi à Beni au Nord Kivu, produit par l'organisation internationale Bridgeway. Ce film met en lumière les souffrances et violences que subissent les populations de la région de Beni par les rebelles des ADF. Selon les producteurs, l'objectif est d'expliquer à la population les ruses dont usent ces rebelles pour recruter des jeunes. Il s'agit aussi d'amener la population à changer d'attitude et de regard vis-à-vis des anciens otages de ces rebelles. C'est Kombi Katondolo, chef des missions de Bridgeway en RDC, explique au micro de Marc Marofimbo.
Il fallait trouver un moyen, un outil pour éduquer la population sur cette situation des ADF. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, c'est l'opacité de ce groupe qui fait aussi une de ses forces. Alors il fallait comprendre comment ce groupe fonctionne, qui sont les acteurs, quelles sont leurs motivations. Et c'est la seule façon dont nous pouvons arriver à convaincre la population que, écoutez, il faut recevoir celle-là qui quitte ce groupe parce que c'est pas tout le monde qui est là de son propre gré. Ça, c'est un. Deux, si nous arrivons à accueillir plus de combattants ou de dépendants de ces groupes, nous allons arriver à les rendre faibles parce qu'on donne la chance à ces combattants et à ces gens qui sont dans ce groupe de quitter ces groupes-là. Si on ne leur donne pas cette chance-là, ça veut dire qu'ils n'auront qu'une seule option. Vous avez vu dans le film, c'est mourir arme à la main. Parce que ils disent aux gens, si vous quittez les groupes, on va vous arrêter. Si vous quittez les groupes, on va vous tuer. Mais aujourd'hui, nous avons de preuves que les gens peuvent quitter ces groupes et être accueillis dans les communautés sans problème.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud renforce encore un peu son rôle de médiateur sur la question de la guerre en Ukraine. À la tête du G20 cette année, le pays profite de cette plateforme pour faire entendre sa voix diplomatique. Cyril Ramaphosa se lance ainsi dans une tournée d'appels téléphoniques avec des chefs d'État européens. Le 23 août, il s'est, par exemple, entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Une série d'appels notamment pour insister sur l'urgence d'organiser une réunion trilatérale entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis en faveur d'un engagement ferme pour mettre fin à la guerre.
L'invité.
La semaine mondiale d'allaitement maternel se clôture ce dimanche 24 août courant. C'est une activité de conscientisation des parents qui a pour objectif d'interpeller la conscience des parents au respect d'allaitement exclusif des enfants de 0 à 6 mois qui a été initiée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Que retenir de cette semaine? Nous en parlons avec le médecin directeur de la clinique Dieu et Grand de la ville de Béni. Le docteur Baba Mutuza s'entretient avec Marc et Marofimo.
Docteur Baba Mutuza, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'elle pouvait attendre par la semaine d'allaitement maternel?
La semaine d'allaitement maternel, en fait, elle vise à encourager les femmes, les accouchées, n'est-ce pas, à procéder à un allaitement exclusif. C'est-à-dire que les nouveau-nés ou les nourrissons doivent être nourris exclusivement au lait, sauf quelques exceptions près, jusqu'à 6 mois. Ça, c'est un premier élément, c'est très important. De deux, elle vise surtout à prendre aux mamans non seulement la technique d'allaitement, mais aussi l'importance liée au lait maternel. Et aussi, leur dire qu'au-delà du simple fait que l'allaitement soit important pour les nourrissons et les nouveau-nés, il peut être aussi important pour la mère comme méthode contraceptive.
Quand vous parlez des méthodes pratiques, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Déjà, les nouveau-nés doivent être mis au sein le plus tôt possible, pas comme on faisait avant. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, lorsque le nouveau-né tète, il faut procéder à une alternance des seins, sein droit, sein gauche, pour éviter les difformités de seins. De deux, le nouveau-né, quand il tète, il faudra pas que les tétons l'aréole puisse étouffer l'enfant. Et ça arrive très souvent. Il y a une façon de tenir les nouveau-nés. Et enfin, et ça je crois que c'est assez capital, je voudrais même très important, que la femme n'a besoin d'ajouter rien d'autre à part les laits qu'elle donne à son enfant.
Pendant cette période d'allaitement maternel, vous pensez quel type de comportement les parents doivent adopter pour que l'allaitement maternel soit plutôt bénéfique pour l'enfant?
Il faut déjà qu'il y ait une très bonne alimentation, parce que les laits, c'est vrai, c'est constitué à 90% d'eau, mais il y a d'autres éléments importants. Vous avez des protéines, il y a des sucres, n'est-ce pas? Et il y a quelques vitamines aussi qui y passent, sans pour autant oublier les anticorps qui vont donner le colostrum, les premiers seins là, les lacs qui coulent, qui est très capital. Et donc, il faut que la femme soit dans un environnement où elle mange équilibré en sucre, en graisse et en protéines. Elle doit prendre aussi beaucoup d'eau. Parce que, ceux qui ne comprennent pas, j'ai vu, tu vois, en consultation des femmes qui viennent en disant, les nourrissons font de constipation. La question est simple. Ils font de constipation comment si c'est pas, ça revient de lait maternel. Vous voyez bien? Il faut que la femme mange correctement. Ça, c'est un. De deux. Mais il faudra aussi que la femme puisse vivre dans un environnement où elle n'est pas stressée. Parce que ce stress va forcément avoir une répercussion directe sur la quantité et la qualité du lait qu'elle va donner. Quand elle est trop stressée, il arrive souvent qu'il y ait une hypogalaxie, c'est-à-dire la quantité de lait maternel diminue, et il arrive qu'il y ait parfois des germes qui vont facilement passer, et la nourrisson va commencer à développer des diarrhées liées à l'intolérance, à une composante qui se trouve dans le lait maternel.
Ah, docteur, il y a des femmes qui travaillent, bien sûr, mais qui disent remplacer le lait maternel par le biberon. Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Non. J'ai encore dit à quelques cas près, une femme avec une tumeur de sein, ne pourra pas allaiter, ça va. Il y a d'autres femmes aussi qui naturellement, elles n'arrivent pas à produire, elles sont en anaphylaxie totale, ça peut arriver, et d'autres maladies qui peuvent faire que la femme ne puisse pas allaiter. D'ailleurs, c'est ici l'occasion de dire et de redire encore. Et même une femme séropositive est encouragée d'allaiter pendant les 6 premiers mois. Vous comprenez bien. Alors, les femmes qui travaillent, aujourd'hui, il y a toujours des temps de repos qu'on donne à ces femmes-là. Elles ont 15 minutes pour, après chaque 2 heures, pour allaiter leur nourrisson. Et donc, ce n'est plus aujourd'hui un élément important pour dire que, parce que le travail n'exclut pas l'allaitement maternel exclusif. Par, au contraire, ça peut être un élément qui permettra que les deux éléments soient, les deux facteurs soient réellement fusionnés et avancés ensemble.
Je peux terminer. Il y a dans la société des jeunes filles qui, pour garder leur beauté, ne veulent pas allaiter. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil?
Mais pour qu'elles comprennent l'importance, il faut qu'elles sachent l'importance du lait maternel et de l'allaitement lui-même. Je crois souvent, c'est pourquoi cette semaine est l'importance, parce qu'il va plus vulgariser ces éléments-là qui manquent en réalité. Primo, le lait maternel comporte tous les besoins d'une nourrisson jusqu'à 6 mois. Il n'a besoin de rien d'autre. Deux, les coûts. Vous n'allez pas prendre les coûts. Aujourd'hui, les nan 1, c'est à pratiquement 8 dollars. Le lait maternel, c'est gratuit. Trois, la proximité. Vous n'avez pas le temps de dire on va préparer, vous mettez les biberons et tout ça. Ça vient de la maman, ça va directement au nourrisson ou au nouveau-né. Quatre, ça joue aussi l'immunité de l'enfant. Un enfant qui est nourri au lait maternel, il va avoir plus de défense, plus d'immunité par rapport à celui qui est nourri au lait écrémé. Parce que ce qui manque dans le lait écrémé, ce sont les anticorps en réalité. Les anticorps ne sont pas dans le lait écrémé. Et là, les gens doivent comprendre. Les anticorps se trouvent dans le lait maternel. C'est pourquoi un enfant qui est nourri au lait maternel, il est plus fort, il est plus vigoureux. C'est l'enfant qui est plus tenace et c'est lui qui va plus avoir un développement statico-pondéral plus élevé que celui qui est nourri au lait crémé ou au lait artificiel. Et enfin, et ça c'est très important, le lait va favoriser cette relation mère-enfant. Parce que lorsque les nouveau-nés ou les nourrissons têtent, il y a une sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine du côté de la mère. Il y a une sécrétion de la dopamine du côté de l'enfant. L'ocytocine, c'est l'hormone des rapprochements. La dopamine, c'est l'hormone des plaisirs. Et donc, ça crée un lien d'interdépendance entre la mère et son enfant. Et donc, si vous n'avez pas nourri votre enfant au lait maternel, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas la même relation fusionnelle qu'un enfant qui a été nourri au lait maternel. Et donc, nourrir l'enfant au lait maternel ne va absolument pas faire en sorte que la femme puisse pas garder sa forme naturelle. Pas du tout.
Docteur Papa Mtouza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le médecin directeur de la clinique Dieu et Grand de la ville de Béni est interrogé par Marc et Maro Fimbo. Ainsi s'achève ce journal, mis en onde par Pierre Diassinois. La coordination des Juifs de Mystère Bilanda, sous la supervision de Jean-Gandou Kabongo, grâce à Mzati Massanze, je vous l'ai présenté. Merci pour votre confiance.